Salut à toutes et à tous, vendredi midi, c'est live. On a fait une énorme semaine, on vous a apporté énormément de contenu. Juste Milieu, le youtubeur Juste Milieu, Francis Lalanne, l'économiste Bernard Monod, hier soir, Pierre Jovanovic, et la conclusion de la semaine avec le journaliste, auteur lorrain, François Consoli, La République contre la France, l'excellent. Ici, me lit, voilà, avec une belle cathédrale, voilà, magnifique. La République contre la France, la Révolution française par les contre-révolutionnaires. Alors là, vous voyez, je suis en écharpe, j'ai la veste parce que au bureau, on se les caille, hein, voilà, c'est comme ça.
C'est la France de 2022.
France, hein, la France révolutionnaire où ouais. On se caille dans le bureau. Bonjour, cher François-Xavier, comment ça va?
Bonjour Mike et bonjour à tous.
Donc là, c'est le livre de la contre-révolution, hein, préface de Pierre de la Meuse aux éditions du Verbe Haut. D'ailleurs, on a reçu dernièrement l'ami Sylvain Durin. Ça fait très plaisir de recevoir les gens du Verbe Haut, pour le coup, des Nancéens. Comment on dit Nancéens, ça?
Les Nancéens, oui. Les Lorrains. Ouais. Lorrains.
Lorrains, des Lorrains avec nous, des Lorrains engagés, des Lorrains enragés aussi.
Oui, enragés, effectivement. Je tiens une radio, une web radio sur YouTube qui s'appelle Radio Lorraine Enragée. On va avoir 5 ans, je crois, en septembre prochain.
Voilà. Pourquoi enragés? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, enragés.
Autant de rage.
À l'époque de la création de la radio, on hésitait. Comme nous sommes Lorrains, on aurait pu dire Radio Mirabelle ou que sais-je. Mais bon, ça faisait un petit peu cucu la praline, alors on a décidé d'appeler ça Radio Lorraine Enragée. Pourquoi? Parce que Lorraine, parce qu'on veut être enraciné. Et c'est ce qui manque, je pense, beaucoup dans notre monde actuellement, c'est qu'on n'est pas très enraciné. Nous vivons un petit peu partout. Enfin, nous vivons essentiellement sur les réseaux, donc quelque part, on vit partout et on vit nulle part à la fois. Ça, c'était le petit 1. Et petit 2, enragé, parce que on estimait, et je pense avec raison, on avait du pif, comme on dit. On estimait que la population qui était autour de nous, les gens qu'on rencontrait, moi je suis journaliste, donc je rencontre toujours, je m'efforce de rencontrer des vrais gens, à savoir un ripper, une infirmière, des gens qui bossent, quoi, voilà, tout simplement. Et on sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait du ras-le-bol, que les gens en avaient plein le dos, qu'il allait se passer quelque chose. Et à peine 2 mois ou 3 mois après la création de notre web radio sur YouTube, eh ben, il y a eu les gilets jaunes. Voilà. Donc, enragé, c'était nickel. C'est exactement ça. Voilà.
Enragé aussi dans ce pamphlet contre la République.
Ah oui, alors ce livre, là, on passe à tout à fait autre chose. Alors, ce livre, c'est... Sans m'étaler sur la petite histoire, mais c'est le fruit, parce que j'avais repris, en venant en Lorraine, j'avais repris des études de droit et j'ai fait un mémoire. Et c'est donc ce mémoire-là, évidemment, réarrangé, refait, pimpé, comme on dit. Et donc voilà, c'est un mémoire qui m'a valu quelques petits déboires avec la faculté d'ailleurs, mais qu'importe. Et donc voilà, je me suis passionné pour ce sujet et en m'intéressant donc à la philosophie des contre-révolutionnaires, donc une contre-philosophie des Lumières, si je puis dire, eh bien j'ai découvert des tas et des tas de choses, certaines dont je pouvais déjà me douter, puis d'autres bien plus encore plus profondes, hein, pour reprendre le titre de la chaîne, voilà, plus profondes, plus peut-être même encore plus intéressante, mais qui en dit tellement long sur notre époque, parce que finalement la révolution, nous en sommes les enfants. Alors certains en sont très fiers et ils nous baratinent avec ça à longueur de temps, et d'autres le sont un peu moins et savent ce qu'il en est. Voilà.
Les fameuses valeurs de la République, c'est ça?
Voilà, les valeurs de la République qui est... allons-y, rentrons directement dans le sujet. Les valeurs de la République, c'est un argument absolument génial, puisque on nous le sort désormais à toutes les sauces, hein, curry, oignon, ce que vous voulez. Et au final, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est-à-dire que c'est très bien de balancer les valeurs de la République en permanence sur les plateaux télé, dans les journaux, que sais-je. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les valeurs de la République? Quand on creuse un petit peu, déjà, on se rend compte qu'en discutant avec autant... historien, député, que sais-je, on se rend compte qu'on peut y mettre vraiment tout et n'importe quoi et personne n'a la même définition. Mais quand on se réfère à la définition, c'est ce que j'essayais de faire dans le livre, bon, les valeurs de la République permettent de justifier énormément de choses et bien souvent le pire. Et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui...
Pourquoi, par exemple, parce que il y a un extrait que je trouve très intéressant et peut-être que je vais commencer à lire parce que je pensais lire vers la fin, mais bon, je vais le lire maintenant. C'est la culture de la mort.
Ah oui.
Il y a la révolution.
Mmh.
Donc, c'est la culture de... de la mort. J'ai un écho, là.
Ah, pardon. C'est bon.
Voilà. Il est où, la culture de la mort ? Voilà. Bon, bref, je ne le trouve plus. Voilà, les joies du direct. Donc, c'est la culture de la mort, la République. Par exemple, là, on veut nous imposer la fameuse loi de la fin de vie. Donc, c'est aussi ça, la République. C'est-à-dire, l'homme au centre de tout et une forme, comment dire, de destruction aussi de nos sociétés.
Alors, la question est très large. Pour revenir à l'idée de culture de mort, la République, effectivement, instaure quelque chose d'assez intéressant. C'est que, à partir du moment où l'homme devient le centre de lui-même, autrement dit, il est coupé d'une verticalité, d'une transcendance, comme on disait avant, désormais, effectivement, l'homme devient sa propre boussole. En devenant sa propre boussole, il se coupe d'un millénaire de civilisation, c'est 1300 ans quand même la monarchie française, hein. Et ce qui fait que il se coupe de Dieu, il se coupe des instances religieuses, et comme il devient son propre centre, il devient son propre Dieu. Et en plus de ça, pour revenir à la question de la fascination de la mort, les révolutionnaires au moment de la Révolution française sont effectivement fascinés par la culture des enfers. Normal, puisque finalement, la culture des enfers, c'est l'antithèse de 1300 ans de culture chrétienne où on condamne les enfers, à juste titre, et on fait tout pour le salut de son âme en essayant d'aller au paradis, autant que faire se peut. Mais avec l'ouverture des enfers, il y avait énormément de caricatures à l'époque, de choses qui montrent bien que autant les royalistes que les révolutionnaires vont faire des caricatures, vont faire des pamphlets, etc. On a cette fascination de l'enfer, puisque finalement, pour beaucoup de gens, comme je l'ai dit à l'époque, la France est catholique, la France est chrétienne. Donc, pour beaucoup, la révolution n'est ni plus ni moins qu'un moment de diablerie, quoi, un moment d'ouverture des enfers.
Est-ce que c'est la dévotion du satanisme? Oui. contre le Dieu créateur.
Alors, je fais attention à certains mots, satanisme, etc., machin, parce qu'aujourd'hui, c'est utilisé un petit peu à tort et à travers. Mais moi, je ne pense pas que ça soit une déification de Satan, de Lucifer ou que sais-je. Il y a la Révolution française est luciférienne.
Du diable, si on veut. Quoi.
Voilà, du diable. Alors, on va dire
le diable.
La Révolution française est luciférienne, ça, c'est sûr. Mais ils n'ont pas besoin de faire de messe noire dans une cave pour le prouver. C'est-à-dire que, idéologiquement, sémantiquement parlant, oui, c'est une révolution qui consiste à se prendre pour Dieu. C'est ce que fait Lucifer. Bon, à partir de là, c'est une révolution luciférienne. Donc oui, il y a bien un aspect très marqué vis-à-vis des enfers, vis-à-vis de l'ouverture des enfers. Et autant pour les révolutionnaires que les contre-révolutionnaires, avec chacun son interprétation bien sûr, mais oui, ça c'est très notable.
Alors il y a nombre de républiques, et puis la République, bon, existe depuis la Grèce. Comment définiriez-vous la République à la française, cette fameuse République des Lumières?
Ah oui, très juste. Bon, la République est un mot, pareil, un peu valise aujourd'hui, puisqu'après tout, quand on entend République, ça peut être autant... Il y a la République islamique d'Iran, la République populaire de Chine, la République française. Bon, res publica, la chose publique, bon, très bien. Mais déjà la République athénienne, bon, c'est plus que discutable, puisque bon, c'est un suffrage censitaire et ce n'est ni plus ni moins qu'une aristocratie, hein, faut pas se leurrer. Et la République française a ce côté novateur, c'est qu'elle veut instituer, effectivement, en reprenant finalement la parole de l'Évangile, mais c'est de l'Évangile traficoté, en reprenant la parole de l'Évangile, elle veut instaurer une République pour l'homme, avec un grand H. Ce qui fait que la République française va s'exporter. Et ça, c'est très important aussi. Parce que c'est en ça que... Comment dirais-je ? C'est en ça que nous sommes les enfants de la République. Mais autant en France qu'en Allemagne, avec des nuances, etc. Mais la République française va s'exporter. Et donc, la particularité de la République française, c'est qu'effectivement, elle a un côté englobant. Elle est totalitaire. Totalitaire ne veut pas dire dictature. Aujourd'hui, tout le monde parle de dictature. Mais je ne pense pas que nous sommes en dictature. Nous sommes dans un monde totalitaire. Totalitaire parce que les pouvoirs publics, la force politique, prend en main l'entièreté de votre vie. Et on là, l'aboutissement total avec le Covid, pour faire un petit écho avec l'actu, le Covid était une séquence absolument magique. Parce que le Covid a permis de prendre en main totalement la vie des gens, en expliquant, voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez pisser, vous pouvez parler là, vous pouvez faire ci, enfin bref, lever la tête, baisser le museau, c'était absolument génial. Et la République française instaure cette idée. Alors évidemment, on est à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas encore toutes les avancées techniques qui permettent de rentrer au plus profond de votre vie. Mais tout de même, la République, elle instaure énormément de choses qu'on a oubliées. Mais,
c'est-à-dire, dites-nous, qu'est-ce qu'elle instaure ?
Elle instaure, par exemple, le calendrier révolutionnaire. Le calendrier révolutionnaire, ça paraît être anecdotique. Et pourtant, le calendrier révolutionnaire, c'est non plus 7 jours, mais 10 jours. Et on va instaurer ce qu'on appelle les décadis, et on va supprimer le dimanche. Donc, un, on supprime le sacré, évidemment, parce que dimanche, c'est jour de Dieu, donc, et le dimanche, c'est un jour chômé. Et dans le calendrier révolutionnaire, on travaille, alors je ne veux pas dire de bêtises, je le dis dans le livre, mais on travaille plus de 7 jours, on s'arrête 2 jours et on reprend, etc. Autrement dit, ça c'est aussi un autre point qu'il faudrait évoquer, mais... Autrement dit, on va travailler non plus pour par exemple, un paysan travaille pour à la fois les siens, parce que j'aime oublier que le paysan récolte, fait une récolte pour lui, pour son seigneur aussi, mais aussi pour lui. Donc, on ne travaille plus pour soi, mais surtout, on va travailler sans forme de sacré. Et au final, on va ne faire que travailler. Et toute forme de sacré dans la semaine n'existe plus. Et c'est, bon, sans parler évidemment des lois d'Allard, de la loi Le Chapelier, etc., qui interdit le droit de grève, les corporations sous l'Ancien Régime pouvaient faire grève, qui interdit la possibilité de se réunir, etc., etc. Il faudra attendre 1901, les lois d'association, les lois sur le droit de grève, etc. Il y a quelque chose de très anti-sacré dans la Révolution française, c'est une évidence. Très antisocial, bon, c'est une évidence aussi, je suis pas le seul à l'avoir dit, des tas d'autres l'ont dit avant moi, certainement bien mieux. Mais ça, il faut vraiment toujours le rappeler, c'est que la République française instaure un régime antisocial et surtout vraiment totalitaire, qui prend en main la vie des gens, parce que les gens ne doivent plus être libres. C'est ça qui est très drôle. On parle de liberté avec un grand L, mais les libertés au pluriel avec un petit S.
Oui, pourtant c'est liberté, égalité, fraternité. Alors que nous sommes ni en liberté, on peut pas dire, on peut pas parler d'égalité, mais plutôt d'égalitarisme, et la fraternité est absente. C'est surtout un individualisme.
Oui. Alors, déjà, si on regarde de plus près la fameuse vulgate républicaine, liberté, égalité, fraternité, bon, liberté, on l'a dit, liberté avec un grand L, ça veut pas dire grand-chose. Parce que la liberté, bon, c'est joli dans une chanson, mais... ça ne veut pas dire grand-chose. On exerce des libertés. La liberté de se déplacer, la liberté, Bref, on exerce des libertés. Égalité, fraternité, c'est encore plus pratique puisque finalement, c'est très abstrait. Égalité au nom de quoi ? Bah oui, comme tu l'as dit, on sombre beaucoup plus dans l'égalitarisme, mais l'égalité absolue, elle n'existe pas. C'est pas possible. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des beaux, il y a des moches, il y a des gens qui sont faits pour faire du basket, il y en a qui sont faits pour faire autre chose, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas d'égalité absolue, ça n'existe pas. Il y a une possibilité de faire d'une égalité en droit, oui, c'est sûr, et encore, puisqu'on voit à quel point le droit, et ça aussi je le dis dans le livre, parce que la révolution est aussi une révolution du droit, en condamnant en permanence le droit naturel au profit du droit positif, ce que fait la Révolution française, on se dirige progressivement vers une égalité, vers un égalitarisme totalement délirant, qui aujourd'hui nous mène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on nous explique que, un homme et une femme sont égaux. Ils peuvent être égaux en droit. Sans reprendre un célèbre agent secret, on en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Et à force de faire de l'égalitarisme absolu, on fait de l'indistinction. Et faire de l'indistinction fait qu'aujourd'hui, un homme et une femme sont absolument pareils. Et on parle après de transgenre, de machin, etc. Et on arrive à des délires complètement... Il n'y a pas besoin d'y mettre un soupçon de quoi que ce soit derrière. C'est une évidence. Quand on arrive à des délires absolus où l'égalitarisme fait que on ne peut plus distinguer les choses, très bien. Mais on arrive dans un monde de fous, mais on arrive dans un monde qui est parfait pour un monde de consommation. Puisque finalement, le monde dans lequel on est aujourd'hui est un monde de consommateurs. Et le capital, si je puis dire, n'a besoin que de consommateurs. Il n'a pas besoin de gens distingués. Il n'a pas besoin de distinction. Il a besoin de consommateurs. Et les consommateurs n'ont pas besoin de se distinguer entre eux. Ils ont besoin de consommer, point. C'est très bien. Le résultat, il fait que on est dans un égalitarisme aujourd'hui. L'égalité en soi, de toute façon, n'existe pas. Et enfin, la fraternité, c'est encore plus bidon, si je puis dire, puisque de toute façon, fraternité, certes. Dès lors, on se retrouve dans des situations périlleuses, compliquées, des situations de pénurie, de pandémie ou que sais-je, on voit très vite que la fraternité a ses limites. Et la fraternité entre tous les hommes de la Terre, c'est très bien, c'est très utopique, c'est très beau. Mais le problème, il est que c'est qu'après, on peut tout justifier. Et au nom de la fraternité, on peut déplacer des quantités de gens de pays en pays, de continent en continent. Alors que, justement, je pense que plutôt que de fraternité, on devrait parler de diversité. Et la vraie diversité, si on veut la préserver, c'est de considérer que chacun a sa place sur cette terre, certes, mais chez lui. Et à ce moment-là, on préserve une vraie diversité humaine plutôt que de faire un espèce de mélange totalement luciférien. On en revient. C'est totalement fou.
On a parlé tout à l'heure du calendrier. Comment se fait-il que le calendrier... républicain, de la première république, n'a pas été repris après par les autres républiques.
Le problème du totalitarisme républicain quand il s'instaure après la Révolution française, c'est comme il est jusqu'au boutiste, en supprimant les jours, lundi, mardi, mercredi, en supprimant les mois, juillet, août, septembre, etc., on va instaurer Vendémiaire, etc. On va instaurer la fête, on va remplacer les saints. Pareil, j'ai oublié de le dire, ça, on va remplacer les saints. Parce que les saints, trop chrétiens, trop catholiques, faut remplacer par autre chose. Moi, par exemple, j'avais noté, je crois que je suis né au mois de juin, le 26 juin. Moi, mon saint, normalement, c'est Saint Anselme. Moi, je suis sous la Révolution française, mon saint, c'est le saint, enfin, c'est pas le saint, mais c'est la journée de l'oignon.
On remplace de l'oignon.
Les saints par de l'oignon, parce qu'on remplace les saints par des légumes, par des fruits, par la fête de la neige, la gelée, enfin bref. Alors c'est très naturel, c'est très pourrait faire plaisir aux païens éventuellement, mais la population française imprégnée de son évangile ne va pas accepter ça. Et en plus, avec l'instauration du décadis, c'est de plus en plus compliqué parce que ça devient un espèce de calcul alchimique entre faut calculer les jours, le machin, etc. Donc les gens vont déjà la population en général. Donc quand je dis population au XVIIIe siècle, c'est à 95% c'est des paysans. Donc 95% des paysans et qui ne vivent pas à Paris n'acceptent pas ça. Donc ils n'utilisent même pas le calendrier révolutionnaire. Les révolutionnaires ont essayé au forceps, mais ils n'utilisent même pas. Et finalement, le calendrier sera abandonné, si je ne me trompe pas, au moment de l'instauration de l'Empire avec Napoléon. Et il ne reviendra pas parce que de toute façon, c'est une gabegie. C'est absolument ridicule. Mais c'est très symptomatique. L'exemple du calendrier révolutionnaire est très symptomatique. Il n'y a pas que ça. Au niveau totalitarisme, on pourrait parler de la constitution civile du clergé, où là, pareil, l'État, devenu tout puissant, s'accapare en fait les biens du clergé. Et normal, puisque à l'époque, il n'y a plus un sou dans les caisses. Et pour essayer de renflouer les caisses, on va s'en prendre à l'un des grands possesseurs de l'époque, c'est le clergé, qui effectivement a beaucoup de biens.
Voilà. Alors, je précise pour ceux qui viennent d'arriver, oui, chez moi, on caille. Hein, voilà, on caille, c'est pour ça que j'ai une écharpe, une veste. Voilà, c'est, voilà, c'est pour ça. C'est la nouvelle loi républicaine. Voilà. C'est-à-dire, il faut, à l'avenir, il faut cailler, c'est comme ça. Voilà. Mais quelles sont les origines de cette République des Lumières? Est-ce que les prémices viennent des Rousseau, Voltaire et compagnie, ou déjà avant? Il y a eu des petits quelque chose, des petits soubresauts qui ont fait naître justement ces visions idéologiques.
Alors, il va de soi que tout ça ne se fait pas le 13 juillet 1789, comme je dis souvent. C'est sur le temps long, il faut voir le temps long. Il y a bien évidemment le rôle des philosophes, donc le rôle des Lumières, on appelle les Lumières. Bon, il y a aussi, bien avant... d'autres facteurs. Il y a le protestantisme qui est une fracture énorme dans un monde chrétien qui est très cohérent pendant quand même des tas de siècles. Et le protestantisme vient fissurer l'édifice. En bien ou en mal, je ne suis pas là pour juger, mais ça c'est un fait. Et donc, il y a à la fois le protestantisme, il y a la Renaissance, etc., etc. La Renaissance qui n'est pas, quand on y réfléchit d'ailleurs, qui n'est pas du tout un mouvement qui va vers progressiste, si je puis dire. C'est au contraire un grand retour en arrière. Grand retour en arrière, non pas d'un point de vue technique ou que sais-je, non, ça va être un grand retour en arrière parce qu'on revient à des auteurs pré-chrétiens. Bon, et tout ça mélangé, il y aura plein d'autres facteurs, etc., les guerres de religion, bon bref, mais voilà, on ne va pas épiloguer. Tout ça mélangé, arrivons directement voilà, au XVIIe, XVIIIe siècle et les fameuses Lumières. Bon, la philosophie des Lumières, c'est très intéressant. Il y a les grands classiques, Rousseau, Voltaire, Diderot, Lambert, etc. Tous ces auteurs, il ne s'agirait pas de les juger et de mettre tout dans un paquet, ça serait trop facile. Ils ont leurs caractéristiques, ils ne sont pas tous d'accord. Voltaire, par exemple, est un anti-chrétien carabiné, et il le dit, il ne s'en cache absolument pas. Rousseau, beaucoup moins. Rousseau est un déiste qui croit à quelque chose. Et d'ailleurs, Rousseau, c'est lui qui invente le concept l'être suprême. Voilà.
Le fameux, oui, c'est-à-dire l'être nouveau.
Voilà, l'être suprême. Pas forcément nouveau, mais quand l'être suprême, c'est un petit peu cette entité créatrice qui aurait créé les hommes. Bon. On appelle ça Dieu, mais lui, il va lui donner un autre nom. Et parce qu'il y a toujours... Il ne faut pas oublier que les philosophes sont toujours en but avec leur époque. Ils sont en but avec leur époque parce que pour eux, il faut lutter contre les fondements de l'époque. Bon. Mais je dis, chacun à sa manière. Et certains, de façon très agressive, d'autres, beaucoup moins. Si vous prenez, par exemple, le baron d'Holbach, Holbach, lui, est un anti-chrétien, et même un anti-croyant carabiné, qui, en ouvrant son club, parce qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de d'échanges, etc., à l'époque, dans les cafés, etc., quand il reçoit du monde, voilà, c'est vraiment des diatribes anti-chrétiennes, des diatribes sur Dieu, voilà, Rousseau, Voltaire, tout ce petit monde-là se fréquente, se connaît, se déteste aussi, hein, faut jamais l'oublier, hein, ces gens-là peuvent être parfois des amis, mais ils sont bien plus souvent ennemis, hein. Et donc, bon, tout ça joue. Les idées vont circuler au sein d'une petite élite, il ne faut jamais l'oublier. Comme je le dis aussi dans le bouquin, la fameuse encyclopédie bénéficie d'un tirage très important pour l'époque, parce qu'à l'époque, les livres sont bien moins diffusés qu'aujourd'hui, mais elle bénéficie d'un tirage très important alors que l'ouvrage est très cher. Donc, ça s'adresse vraiment à une élite. Mais l'ouvrage est bien vendu, se vend bien. Mais personne ne lit ça. Par rapport à la population générale, personne ne lit ça. Les idées des Lumières circulent parmi une petite élite, parmi des gens éclairés, comme on dirait aujourd'hui. Ça n'a aucune incidence en fait au sein de la population générale. Les gens n'ont pas le temps de lire tout simplement. Et même si, et d'ailleurs, autre cliché qu'il faut démonter, quand on parle de l'Ancien Régime, on a toujours cet aspect, tu sais, le filtre. Alors, on va faire un film sur, grosso modo, le Moyen-Âge, hein, parce qu'avant les Lumières, c'est le Moyen-Âge. On va faire un film sur le Moyen-Âge, on met un filtre gris. Et puis, ça y est. Donc, tout était gris. Voilà, les gens étaient tristes, les gens étaient pauvres, les gens mouraient de faim, les gens, voilà, ils faisaient leurs besoins dans les rues, etc. Et puis, c'était horrible, etc. Machin. Oui, bien sûr. Si seulement c'était si simple, mais non, ce n'est pas si simple. Mais en tout cas, vis-à-vis de l'encyclopédie, il est clair que ça n'intéresse qu'une petite élite. Et tout ça circule, tout ça va travailler, tout ça va influencer les élites, mais autant des philosophes que des nobles. Puisque faut jamais oublier que le propre, ce qu'on appelle monsieur, donc le frère du roi, si je me trompe pas, enfin en tout cas le régent, va lui, après la mort de Louis XIV en 1715, s'instaurer une régence, et le régent va être lui-même très influencé par ça. Énormément de nobles, énormément de possédants, énormément de gens qui ont le pouvoir vont être influencés par cette nouvelle philosophie. C'est parce que c'est une philosophie intéressante, c'est vrai, mais c'est une philosophie qui bouleverse les choses, qui renverse les choses. C'est nouveau, c'est intriguant. Et pour beaucoup, c'est même bien plus intéressant finalement que le thomisme, enfin que Saint Thomas d'Aquin. Donc, il y a un phénomène de mode, si je puis dire, qui arrive.
C'est-à-dire qu'ils vont se convertir à une philosophie qui va créer leur perte, en réalité. Exactement. Mais c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. On a, entre guillemets, une droite pour des partis qui se convertit souvent aux idées de la gauche. Mais ça a été de tout temps, visiblement.
De toute façon, c'est ça la beauté, quand on s'interroge sur le monde des idées, c'est ça la beauté des idées nouvelles. La beauté des idées nouvelles, aussi pourries et aussi dangereuses soient-elles, on se charme de la nouveauté. Et le charme de la nouveauté, quand justement on a affaire à un monde qui, effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, la noblesse, depuis un certain moment, est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. Donc, forcément, toutes ces idées vont jouer. Et c'est ça qui est quand même le plus... C'est la première partie du bouquin. C'est qu'il ne faut jamais l'oublier. Et c'est en ça qu'il ne faut pas être binaire en mettant d'un côté les gentils, les méchants, etc.
Il faut être non-binaire aujourd'hui.
Voilà, il faut être non-binaire de toute façon. Non, mais il faut être non-binaire dans le bon sens du terme. Mais il faut être juste fin. Et le problème, il est que comme on veut tout mettre dans une case, voilà, aujourd'hui. Mais faut pas faire ça. La noblesse est la première responsable de sa chute. Et le clergé aussi. Et c'est ce que beaucoup de gens, en discutant avec des contre-révolutionnaires, etc., parfois n'osent pas reconnaître. Ne veulent pas reconnaître. C'est que oui, ça serait juste un complot. De 5 mecs dans une cave, etc., qui sont philosophes, etc. Non, c'est pas. Il y a des complots. On pourra même reparler oui. Du complot après. Mais il n'y a pas un grand complot. Non, c'est une multiplicité de facteurs qui fait que la monarchie ne pouvait que tomber.
Mais la monarchie, est-ce qu'elle a laissé s'introduire ces philosophes par fascination, oui. Peut-être.
Bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr, la noblesse adorait les philosophes. Vous prenez par exemple la grande maîtresse de Louis XV, la marquise de Pompadour, la fameuse Poisson, devenue marquise de Pompadour. On parle aussi dans le bouquin. Voilà. Le fils de Louis XV l'appelait Maman Putain, d'ailleurs.
Voilà, c'est drôle. Tiens, c'est drôle parce que j'ai l'extrait. L'extrait, ouais. Je sais que je vais le trouver. Madame de la Pompadour. C'est pas possible, c'est... Aujourd'hui, je suis...
C'est très intéressant, Madame de Pompadour.
Ah, voilà. Page 76, c'est page 76, et donc je vais lire Madame de Pompadour, voilà. Née Jeanne-Antoinette Poisson, elle demeure célèbre pour être l'une des plus illustres maîtresses du roi de France Louis XV. Issue d'un milieu bourgeois et affairiste, elle recevra une éducation soignée portant sur tous les domaines de la connaissance. Elle fréquentera dans sa jeunesse le salon de Madame de Tencin, mère de l'encyclopédiste célèbre Jean le Rond d'Alembert. Antoinette Poisson marquera son époque par une ambition qui brisera tous les barrages. Introduite à la cour, elle se fait remarquer par Louis XV, qui en fera son sa maîtresse en titre de 1745 à 1751. Anoblie par ce dernier, elle portera le titre de marquise. Un honneur qui lui permettra d'amasser de nombreux biens, domaines et privilèges, devenant aussi sujet de raillerie d'une partie de la noblesse, la considérant comme une parvenue. D'ailleurs, il y a les, je crois, il y avait des chansons sur elle qui s'appelaient les poissonnades, quelque chose comme ça.
Mmh, c'est vrai. Hein,
elle est aussi la première des maîtresses royales à ne pas faire partie de la noblesse, mais à être issue de la haute bourgeoisie. Le dauphin lui-même la qualifiera de maman putain. Voilà. Est-ce que Madame de Pompadour est aussi, on va dire, l'ancêtre de la République, sachant, je ne sais pas si les gens le savent, que l'Élysée, voilà, le palais de l'Élysée, dont actuellement les présidents, enfin depuis 58, enfin oui, même avant,
oui. Hein, oui,
était la demeure de Madame de Pompadour.
Ah oui. Alors, je ne sais pas si Madame de Pompadour est l'ancêtre de la République, mais ce qui est intéressant avec Madame de Pompadour, c'est que ça peut paraître anecdotique, mais pourtant, c'est très intéressant de le comprendre. C'est que là, on a la caricature de ce qu'on appelle la parvenue. Et la République, au moment de son instauration, illustre très bien ça. Les gens qui vont se donner à corps et à cri pour la République sont sociologiquement, à quelques exceptions près, mais on ne peut pas parler d'exception sinon on ne parle de rien, il faut parler du général, sont dans leur très grande majorité des parvenus. Ce sont, je parle des députés du tiers notamment. Quand on parle du tiers-État, le tiers-État, ce n'est pas les paysans à l'Assemblée. Hein. Il n'y a pas de paysans à l'Assemblée, ce n'est pas vrai. Non, les gens qui représentent le tiers, donc les députés du tiers, ce sont des avocats, ce sont des médecins éventuellement, etc. En tout cas, ce sont majoritairement des professions libérales. Si on fait un petit peu de sociologie actuelle, les gens à l'Assemblée nationale ont exactement la même sociologie. Hein. Ce sont des professions libérales, très majoritairement. Voilà. Des avocats, des gens qui ont fait du droit, etc., des médecins, etc. Bon. Et la marquise de Pompadour instaure très bien ça, c'est un très bon exemple. Voilà. Fille de grand bourgeois, fille de marchand, de grand bourgeois, elle s'infiltre, entre guillemets, dans la cour pour objectif de finir dans le lit de Louis XV, hein, pour finalement obtenir des passe-droits, obtenir énormément de biens. Elle va devenir très riche, elle sera très riche. J'ai récemment assisté à une conférence de Marion Sigaud, qui est une historienne et qui connaît très bien aussi ces sujets. Elle a fait un petit passage sur la marquise de Pompadour, et elle explique très bien que la marquise de Pompadour a dépensé des quantités d'argent absolument monumentales. Enfin, c'est monumental, quantité, mais vraiment monumentale. Pourquoi? C'est simple, parce que c'est la favorite de Louis XV. Et Louis XV étant... j'ai déjà eu des débats sur le sujet avec des gens qui défendent Louis XV. Bon, de ce que j'ai pu étudier sur Louis XV, pour moi, c'est un roi assez faible. Hein. C'est un roi assez faible. Et avec de grands principes, c'est vrai, mais c'est un roi assez faible. Et le drame, c'est que tout ça, c'est l'argent de l'État. Enfin, voilà, c'est l'argent du royaume.
Et, Louis XV, c'était un peu... Le Rocco Siffredi de l'époque, si je puis faire une comparaison.
Il aimait la cuisse, ça c'est sûr. Mais on peut aimer, mais Louis XIV aimait la cuisse et pourtant c'était un chef de guerre.
C'est vrai.
Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre normalement, hein, c'est pas du tout le problème. Non, je pense que Louis XV avait été trop timoré. Et, voilà, mais une fois encore, ce que les auditeurs ne doivent pas oublier une chose, c'est que la monarchie, les principes, ou le royalisme, si vous préférez, voilà, on va dire le royalisme, les principes royalistes sont des principes. Donc, ils ne défendent pas des hommes. On ne défend pas des hommes, on défend des principes. Voilà. Et l'homme étant ce qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, nous ne sommes pas égaux. Et donc, il y a des gens forts, il y a des gens faibles, il y a des rois forts, il y a des rois faibles, il y a des rois qui ont marqué l'histoire et d'autres, on s'en souvient
même plus. Est-ce que l'ancien régime pouvait survivre à Louis XIV.
L'ancien régime, en fait, et ça je le dis aussi, mais comme je dis, c'est long, Louis XIV instaure finalement une forme de centralisme par sa personne, à travers sa personne, ce qui donne effectivement la France de 1748 avec le traité de Westphalie. En 1748, la France règne sur le monde. pour faire simple. Voilà. On pourrait mettre des nuances, mais en 1748, la France règne sur le monde. Dans toutes les cours de France, d'Europe, donc dans le monde entier, grosso modo, on parle français. La France est sur tous les continents. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Le problème, c'est que, bah oui, la France va aussi, on va, comment dire, elle va payer cette grandeur-là. À la fois, on l'a dit, les philosophes, etc., etc. Notre ennemi juré, qui sont les Anglais, hein, faut jamais l'oublier. Donc, est-ce que la France pouvait survivre à la révolution après Louis XV, après Louis XIV? Oui, si on avait eu d'autres Louis XIV. Voilà. Bon, avec des si, on met pareil en bouteille.
Mais
bon,
dès voilà, Louis XIV. Bah, il faut savoir aussi une chose. Bon, déjà Louis XIV, bon, ça n'en a pas tous les quatre matins, hein, ça se saurait. Mmh. Et puis, Louis XIV a vécu des grands malheurs, c'est-à-dire que les 90% de ses descendants, ceux qui auraient dû prendre le trône, sont morts en bas âge, quoi.
Mmh. Oui, bien sûr.
Et donc, on a vu Louis XV qui était. C'est comme si demain. Je ne sais pas, moi, le trône d'Angleterre revenait au fils du prince Harry, par exemple.
Oui, bien sûr. Puisqu'il y a une notion de filiation, c'est sûr que tout ça est très important. Mais le problème, il est que les hommes exceptionnels émergent en temps de crise. On le voit bien. C'est comme, on pourrait dire pareil après vis-à-vis de la République, finalement. Oui, la Ve République est très belle dans ses premières années. Bah, pourquoi? Parce que finalement, on a un simili roi, hein, d'ailleurs, faut pas l'oublier, hein, quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'est la France et qui était d'ailleurs royaliste dans sa jeunesse, qui était de Gaulle. Quand de Gaulle incarne la France, il dépasse même le cadre de la République, il incarne la France. Quand de Gaulle s'en va, juste avant de partir, il dit après moi, ce que je crains, c'est pas le vide, c'est le trop-plein. On l'a bien vu. Oui, c'est le tel trop-plein, oui, effectivement. Mais la beauté, enfin, la beauté, c'est beau. La beauté, finalement, de la monarchie, c'est que cette histoire de filiation, quand bien même, ah oui, les aléas de la vie font que peut y avoir des problèmes, mais la passation du pouvoir d'un point de vue familial fait que vous êtes, bien sûr, un homme exceptionnel, mais ce que vous incarnez, c'est ta vie. Donc, vous avez une fonction. Aujourd'hui, on le voit bien. Enfin, toi qui es emmitouflé parce que tu as froid, ça vient de quoi, ça? Alors, évidemment, il y a plein d'aspects géopolitiques, etc. On n'est pas là pour parler de ça. Mais ça vient aussi du fait que les responsables de la France, depuis quand même un certain nombre d'années, ne sont pas des hommes politiques. Ce sont des gestionnaires. Et eux-mêmes le disent. Ce sont des gestionnaires. Ils font le job. La Macronie a été fabuleuse pour ça. Elle employait les mots tout à fait justes. La Macronie fait le job. Mais faire un job, ça équivaut quand on a 18 ans et qu'on va à la fac, etc., et qu'on bosse au McDo, on est animateur avec des gosses ou je sais pas quoi. On fait un job, oui, on fait un job pour payer ses études. Ben, ces gens-là font le job, mais ils ne dirigent rien. Ils ne commandent rien. Ils font le job, ce sont des gestionnaires. Un roi de France ne fait pas le job. Un roi de France incarne quelque chose. Il incarne quelque chose. Et c'est ça la différence. Et le roi de France, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre de ses peuples. Voilà. Quand il disait bien, le roi de France, tous les rois de France disaient à propos des provinces, mes peuples. Avec chacun ses identités, ses patois, etc. Machin. Voilà. Autre forme de totalitarisme, d'ailleurs, qu'on aurait pu évoquer. Hein, voilà. La suppression des patois, la suppression des particularismes. Voilà. Bon.
Alors, pour en revenir à l'Ancien Régime et à l'après 14, alors, la France a régné sur le monde. Mais je pense que ça aurait été aussi compliqué de garder l'Empire, si je puis dire, du fait que, contrairement aux Anglois, le français n'immigrait pas au sein de l'Empire. Mmh. C'est-à-dire que les Anglois, eux, comme leur pays, faut dire les choses, est bien pourri, quoi, mais depuis toujours, ils fuyaient leurs terres. C'est-à-dire qu'ils allaient, je ne sais pas moi, ils peuplaient le continent nord-américain, ils peuplaient la Nouvelle-Zélande, l'Australie, voilà. Par exemple, au Québec, le Canada, lorsqu'on a perdu le Canada, c'est parce qu'il y avait un Français qui habitait contre 10 ou 15 ou 20 Anglais. Mmh. On ne va pas l'oublier. Parce que la France, c'est trop exceptionnel pour qu'on la quitte, enfin, en tout cas à l'époque.
Il est vrai sur un point que les Français n'émigrent pas de leur pays.
Sauf aujourd'hui, je ne sais pas s'ils le remarquent.
Sauf aujourd'hui, mais c'est, disons que les raisons ont un peu changé. Mais alors, il y a plusieurs choses. Petit 1, la logique de colonisation, ça c'est pareil, c'est très important. Et ça remettrait tellement de choses en place si quelqu'un sortait un... Beaucoup de gens ont sorti des tas de livres, mais qui abordent le sujet de façon un peu plus périphérique.
C'est pour ça que je t'en parle.
Allons-y. La logique de colonisation du temps de l'Ancien Régime entre la France et l'Angleterre, on va appeler ça l'Angleterre, est totalement différente. Totalement différente. Moi, je recommande aux auditeurs qui peuvent s'intéresser à ces questions. Moi, j'ai une passion pour les Indiens d'Amérique du Nord. Quand on s'intéresse à tout ça, moi, je leur recommande par exemple le livre de Francis Parkman, La piste de l'Oregon, où un auteur américain explique bien que la colonisation française du Québec, de la Louisiane, n'a absolument rien à voir avec la colonisation anglaise des 13 colonies et après de ce qui se fera tout au long d'histoire américaine. Les Français sont chrétiens, éminemment chrétiens. Comme le dit Suarez, l'évangile coule dans leurs veines. Et quand ils vont à la rencontre de populations indigènes, d'Indiens, les Hurons, les Iroquois, etc., machin, il y a une rencontre. Ils ne les tuent pas. Il y a rencontre. Il y a bisbille. Attention, bien sûr. Je ne dis pas que tout ça se passe aussi dans le bonheur, on se fait des bisous, etc. Mais en 1701, il y a bien un pays qui établit un traité, c'est le traité de Montréal, et qui permet finalement de faire une union entre les colons blancs et les Indiens, c'est les Français. Il n'y a aucun traité de Montréal entre les Anglais et les Indiens. Les Indiens, pour les Anglais, c'est de la merde. Il faut les supprimer. Et d'ailleurs, ils inventeront de multiples stratagèmes pour pouvoir le faire. Voilà. Autant le fusil autant la poudre que les couvertures pourries, etc. Enfin bref. Donc, il y a une différence fondamentale entre la colonisation de l'Ancien Régime, la colonisation de l'Ancien Régime par la France et la colonisation par les Anglais. Quand on perd la Nouvelle-France, donc Québec jusqu'à la Louisiane en 1760. Et d'ailleurs, certains s'en réjouissent. Hein, Voltaire, on va quand même pas se fendre pour quelques arpents de neige. Oui, mais bon. Déjà, c'est une défaite, c'est un revers énorme. C'était quand même une ouverture sur le monde absolument, absolument grandiose. Le drame, c'est que comment se fait-il que les Anglais, quand bien même tous les pays occidentaux ont reculé progressivement au XXe siècle vis-à-vis de leur possession coloniale, et je ne suis pas pour la réinstauration des colonies, c'est pas ce que je dis, mais comment se fait-il que les Anglais aient réussi à gagner culturellement la partie en instaurant des instances comme le Commonwealth, etc., machin, donc autrement dit en disant, bon certes, nous ne sommes plus les maîtres blancs, etc., chez vous, il n'y a pas de problème. Mais bon, on va instaurer quand même une forme d'entente cordiale entre nos pays et vous allez et tous les pays, que ce soit du Nigeria à l'Inde, etc., parlent encore anglais, etc. Machin. Tandis qu'en France, nous n'avons pas réussi ça, nous n'avons pas réussi cette transition-là. Nous n'avons pas réussi à acter ça. Pour une raison simple. C'est très simple. C'est parce que, déjà, il faut faire un distinguo, comme je l'ai dit, entre la colonisation sous l'Ancien Régime et ce qu'on appellerait aujourd'hui les Acadiens, les Cajuns qui sont en Louisiane, etc., qui ont été totalement abandonnés parce qu'eux, on n'y pense plus, et ce qu'on appelle aujourd'hui nos anciennes colonies. Nos anciennes colonies, c'est nos colonies après la Révolution, colonisées après la Révolution française, colonisées au nom des valeurs de la République. C'est au nom des valeurs de la République qu'on colonise le monde au XIXe siècle. Enfin, en tout cas en France, que la France le fait. À ce moment-là, il y a forcément à un moment donné, il y aura une dissonance cognitive, puisque c'est au nom des valeurs républicaines et au nom des Saintes Lumières qu'on a colonisé les pays nord-africains, etc., l'Afrique équatoriale française, etc. Et c'est au nom de ces mêmes valeurs que ces pays se sont libérés en disant, mais vous vous foutez pas de nous. Vous nous avez colonisés alors que vous prêchez partout les valeurs et liberté, égalité, fraternité, tous égaux, etc. Machin. Précisément, vous allez nous foutre la paix.
C'est important d'en parler. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, la société française, elle est, comment dire, sur la colonisation, on la culpabilise sur la colonisation. C'est important de parler du différentiel entre la colonisation de la monarchie et la colonisation de la République. La monarchie, elle n'est pas universaliste. La monarchie l'est. Donc voilà. Disons, voilà, donnons les différences. Parce que moi, tu sais que la colonisation aujourd'hui, bon, c'est une forme de tabou. Voilà, et deuxio, c'est un reproche que font les populations nouvelles qui sont en France à l'autochtone de France. Et d'ailleurs, l'autochtone de France, lui, est tellement dans la culpabilisation. Cette colonisation, qu'il en vient la haine de soi. Donc, expliquons vraiment le différentiel.
Bah, le différentiel, finalement, oui, comme je l'ai dit, c'est assez simple. C'est qu'à partir du moment où on va coloniser des pays au nom de certaines valeurs et qu'on peut renverser ces mêmes valeurs au nom de la décolonisation, il est évident que dès lors, on ne fera pas à la fois le deuil et surtout, on n'arrivera pas à solder les comptes. Parce que la plupart des colonies, voilà, on va dire surtout nord-africaines, hein, voilà, et d'autres colonies de subsahariennes, ont toujours, comme tu l'as dit, ce reproche en disant, vous nous avez colonisés, donc aujourd'hui on utilise cette excuse pour vous coloniser à notre tour. C'est exactement, il suffit d'écouter finalement les indigénistes, etc. Hein, c'est exactement leur logiciel. Bon, très bien. Je note déjà au passage, petite remarque quand même, je note déjà au passage qu'il y a eu d'autres endroits dans le monde, hein, prenons par exemple l'Indochine, qui ont été colonisés, qui n'ont pas du tout qui n'utilisent pas du tout ce même reproche-là. Donc il y a à la fois un côté, il y a une caractéristique ethnique, déjà c'est une évidence, faut pas se leurrer aussi, petit un. Et petit deux, et là on en revient au monde des idées, au moins, il est tout à fait logique, oui, il est tout à fait logique pour un décolonial d'utiliser le logiciel républicain en disant, vous nous avez colonisés, c'est notre tour. Ce qui prouve bien que il y a un problème fondamental avec l'usage permanent des fameuses valeurs de la République. Dès lors, elles se retournent contre les autochtones. Bon, bah, aujourd'hui, qui paye au nom des valeurs de la République la colonie réalisée au nom de la République? Les autochtones français. Précisément parce que c'est au nom de ces valeurs-là qu'on leur dit, c'est de votre faute. Alors, comme le dit très bien Jacques Marseille, bon, faut peut-être pas exagérer non plus. Un paysan lorrain, un mineur du pays haut, ou du Nord, ou je ne sais pas quoi, un fleuriste de Provence, n'a jamais touché un fifrelin des colonies, hein. Enfin, de l'argent fait par rapport aux colonies, jamais. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Comme toujours, hein. On a collectivisé les dépenses. Les colonies ont coûté un pognon fou, mais un pognon de fou, hein. Un pognon de dingue. Par contre, les bénéfices, voilà, c'était privatisé, ça, si je puis dire, hein, voilà, comme souvent. Mais donc petit un, le reproche global fait à la population française, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les Français n'ont rien touché sur la colonisation française, et au contraire, ça leur a coûté énormément d'argent. Voilà, quand on se remet dans les débats de l'époque et les conflits de l'époque où des vignerons et tout le Bordelais se manifestaient en disant, il y en a marre que notre vin soit minoré. Comparé au prix d'achat du vin fait en Algérie, qui était acheté un maxi, qui était acheté une blinde, parce qu'il fallait faire fructifier en fait les vignerons là-bas. Non, enfin, c'est absolument fou. Bref, mais enfin, donc oui, il y a une différence. Et effectivement, on ne peut pas, et ça, j'en démordrai pas, on ne peut pas utiliser les valeurs de la République, les valeurs des droits de l'homme et de l'humanisme, etc., en permanence, sans après se plaindre. Que ces valeurs-là soient justement utilisées comme argument boomerang en te revenant dans le museau. Elles nous reviennent dans le museau parce qu'aujourd'hui, bah, c'est précisément le discours des décoloniaux. Bon, bah, le
Et tu
problème,
sais
c'est qu'on n'en
ce qui est
sortira
drôle?
jamais. On n'en
Tu sais
sortira
ce qui est
jamais.
pas. Bien
Oui, vas-y.
sûr. Et tu sais ce qui est drôle? Bon, enfin, c'est drôle, enfin, façon de parler, hein, sur la colonisation. C'est que les territoires qu'a eu la monarchie n'ont jamais pris leur indépendance, au contraire de ceux qui ont été pris par la République. C'est-à-dire Antilles. Alors, je ne sais pas si la Polynésie c'était la monarchie. Je crois que la Polynésie c'est la monarchie. j'ai plus de certitude. En tout cas, Antilles, ça c'est la monarchie, c'est voilà. Réunion, c'est la monarchie. N'ont jamais demandé leur indépendance. Bizarrement.
Mais finalement, prends un autre comparatif. Qu'est-ce que l'Algérie post-coloniale? Qu'est-ce que le FLN a voulu instaurer? Une république. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, c'est ni plus ni moins qu'une copie de la République française. Bon, et effectivement, le Québec, lui, a voulu son indépendance non pas pour revenir sur le potentat français, non, ou pour critiquer, pour s'inscrire contre l'ancien colon, non. Les Québécois ont dit, nous voulons notre indépendance pour lutter contre le diktat anglais qui nous entoure. Donc, ce qui prouve bien, et d'ailleurs, il suffit de regarder, allez, je me souviens que j'avais vu ça à l'époque, le fameux discours de Gaulle quand il arrive à Montréal et qui dit « Vive le Québec libre ». C'est un roi de France, en fait. Et lui-même le dit, il emprunte, je crois, l'allée du roi pour remonter en arrivant, il remonte Saint-Laurent, etc. Machin. Tout ça est symboliquement, tout est dit, quoi. Voilà. Bon. Et tu as tout à fait raison, effectivement, les colonies sous l'Ancien Régime, effectivement, ne sont pas tombées dans cette volonté de vouloir instaurer une république. Bon, une fois encore, hein, il suffit de se poser les bonnes questions et on aura les bonnes réponses. Mais au-delà des colonies, etc., il y a aussi autre chose, et ça, il faut vraiment l'évoquer à mon avis. C'est comme je l'ai dit dans le préambule de notre entretien, c'est que la République française va s'exporter, elle va s'exporter très très bien, mais elle va s'exporter avec beaucoup de sang. Mais malgré ça, la République, en s'exportant tout au long de l'Europe, dans toute l'Europe durant le 19e siècle, elle agit un petit peu comme un choqueur. C'est-à-dire qu'elle vient réveiller, c'est pour ça que les républicains adorent cette mythologie-là. C'est qu'elle vient réveiller les choses, elle réveille les peuples, etc. Et on aura le fameux printemps des peuples, 1848, etc. Mais elle réveille, mais elle détruit. Moi, pour mon bouquin, j'ai lu des tas d'auteurs, notamment un que j'ai adoré, qui s'appelle René Cédillot, et qui a écrit un livre magique, qui s'appelle, vraiment, il est superbe ce livre, qui s'appelle « Les coups de la Révolution française ». Et il le dit très bien. Il dit, en supprimant le Saint-Empire romain germanique, Napoléon fait une chose, il lance l'idée de nationalisme allemand. Et donc, finalement, quand on y réfléchit, c'est sa conclusion, hein. La Révolution française a un rôle majeur dans la Première et Deuxième Guerre mondiale. C'est une évidence. Il n'y a pas de une fois encore, hein, là, ça peut paraître. Il suffit de faire des liens, mais c'est. Cette révolution, la révolution française et l'exportation de la République française fait des semis, si je puis dire, et elle contient en germe tous les grands conflits mondiaux du XXe siècle.
Robespierre l'arrière-grand-père de Lénine, par exemple. Est-ce que la République française s'est exportée en URSS et a créé la Révolution de 17?
Alors, Robespierre est un personnage aussi très intéressant. On ne va pas faire des longs sur Robespierre. Personnage très intéressant, pourquoi? Parce que Robespierre est un personnage qui est, pour moi, caricatural. Dans le sens où on l'utilise aujourd'hui de façon caricaturale autant d'un côté que de l'autre. Pour des gens dits... conservateur, de droite ou que sais-je. Robespierre est un criminel qui a du sang sur les mains, etc. Machin. Oui, c'est vrai. Mais Robespierre n'est pas tout seul. Et pour d'autres, des gens de gauche, etc. Machin, il y en a pas mal. Là, la France insoumise, ils adorent Robespierre, etc. Robespierre, c'est génial, etc. Machin. Et lui, c'est l'incorruptible que rien ne pouvait atteindre, qui avait des principes, il est resté droit dans ses bottes. Bon, le problème, c'est qu'on s'est des clichés autant d'un côté que de l'autre, parce que Robespierre n'était pas seul. Robespierre a signé toutes les pires saloperies qu'il était possible de signer. Donc, Robespierre a du sang sur les mains, c'est une évidence. Mais il n'était pas seul. Robespierre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand il y en a des tas d'autres. Voilà, si vos auditeurs, les auditeurs peuvent regarder des gars comme, comment il s'appelait, le fameux, Enfin, les Marats, des Barrères, des Dantons. Danton, voilà,
Les Dantons, évidemment.
Danton est tout sauf un personnage illustre. Hein,
Saint-Just,
hein.
J'imagine aussi.
Voilà, ouais, bah, Saint-Just qui était le second de Robespierre. Il y a aussi, comment, j'ai oublié son nom. Bon, ça me reviendra. Mais des personnages qui sont absolument dégueulasses, dont on parle beaucoup moins, et qui sont, comme je le disais, voilà, des parvenus, mais des idéalistes, des fanatiques, des gens qui ont des principes. Ils ont épousé totalement le principe de république, etc. Machin. Il faut une république totale, donc totalitaire, et pour ça, il faut purger. Ils veulent régénérer la France, hein, ils le disent très bien. Hein, il faut régénérer la France. Et donc, il faut purger. Et j'ai perdu le fil. Oui, et donc, quand on parle de Robespierre, et de Lénine, par exemple, qu'il y ait une filiation directe entre les deux personnages, je ne sais pas, mais par contre, qu'il y ait une filiation entre la Révolution française et la Révolution soviétique, ça, c'est une évidence, ça a été démontré, on a écrit sur des tas de livres, etc., j'ai aussi des références dans le mien sur ce sujet, et puis il y a la fameuse, c'est peut-être une anecdote, mais c'est une anecdote qui, à mon avis, est très symbolique, c'est que lorsque Lénine, depuis son train blindé, envoyé par les Allemands à Saint-Pétersbourg pour désosser une bonne fois pour toutes ce dernier empire chrétien qui était l'empire tsariste. Qu'est-ce qu'on chante à Lénine quand il descend de son train à la gare de Saint-Pétersbourg? La Marseillaise. Bon, bah, c'est une évidence. Enfin, encore.
Parce qu'aujourd'hui, tiens, tu parles de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est le chant de la France, enfin, c'est l'hymne de la France ou c'est l'hymne de la République?
Ah oui, là. Malheureusement, la Marseillaise, pour le monde entier, quand on entend la Marseillaise, c'est la France. Mais c'est la France bleu, blanc, rouge. Donc c'est la France depuis 80. Enfin non, la Marseillaise, c'est. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 91 ou 92 qu'elle est choisie pour devenir l'hymne. Voilà. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais bref. Mais en tout cas. Il est évident que la Marseillaise, oui, c'est l'hymne de la France aujourd'hui, mais c'est l'hymne de la France républicaine. Est-ce que c'est l'hymne de la France? Ouais, chacun se fera son idée. Chacun se fera son idée. Mais oui, mais c'est pareil, la Marseillaise est une chose très intéressante. Quand on entend ce chant guerrier, un chant guerrier, la Marseillaise, hein, c'est un chant, on parle de sang, on parle de... faut tuer des gens. Hein, voilà. Une fois encore, quand on remarque les choses et qu'on fait preuve d'un simple bon sens, je ne vois pas vraiment en quoi la Marseillaise qui est utilisée comme argument de vente, si je puis dire, de la République dans le monde entier, quand on utilise ce genre de chant, je ne vois pas en quoi il y a beaucoup de fraternité là-dedans. Ce n'est pas très fraternel. Hein. C'est pas Kumbaya autour d'un feu. Hein. Pas du tout. Hein. C'est on va apporter le sang et on va détruire les tyrans. Alors c'est beau, oui, c'est beau, on va détruire les tyrans, mais bon, une fois encore... De quel tyran on parle, de quel point de vue on se place. Bon, voilà.
Mais la Marseillaise, quel était l'hymne avant la Marseillaise?
Il n'y a pas.
Il n'y a pas d'hymne. Je sais qu'il y avait une chanson sous Henri IV.
Il y a de multiples chansons, il y a de multiples chants, il y a de multiples louanges faites au roi, etc. Mais voilà. Il n'y a pas de. La nation est quelque chose d'éminemment républicain. C'est très drôle d'ailleurs aujourd'hui les gens de gauche qui critiquent l'idée de nationalisme. Bah, c'est très drôle parce qu'en fait la nation est un principe, en tout cas une construction politique très républicaine. Avant on ne parle pas de nation, on parle de royaume. On parle de tout la même chose. Et le royaume, bah, justement dans sa diversité, dans sa multiplicité, a de multiples champs. Des chants bretons, des chants lorrains, des chants provençaux, des chants de l'Artois, de que sais-je. Bon, le centralisme républicain fait que la France aura un drapeau, aura non plus des provinces, mais des départements, et un chant. Et basta.
Est-ce qu'en agissant ainsi, parce qu'on n'a pas totalement la réponse, est-ce que la République... a réussi à créer un peuple.
Alors.
Un peuple uni, si je puis dire.
Un peuple uni, oui.
Où la diversité du royaume de France, justement, elle, est-ce que du fait de sa diversité, le peuple n'était peut-être pas. Ouais, est-ce que c'était antinomique par rapport à la création du peuple républicain? Voilà. si je puis dire.
Alors, comme je l'ai dit, il y aurait aussi plein de nuances à apporter, mais bon, la notion de peuple français sous l'Ancien Régime n'a pas forcément lieu d'être. Comme je l'ai dit, le roi lui-même disait « mes peuples ». Il disait « mes peuples » parce qu'il y avait une diversité au sein des provinces. Et donc, on était français, oui, on était chrétien aussi, ça ne faut pas l'oublier. Et donc, il y avait une unité naturelle. Et l'unité naturelle, c'est comme le droit naturel. Si aujourd'hui, dans la pyramide du droit, on met le droit naturel tout en bas, c'est bien dommage parce que c'est le droit en fait qui se fait sans nécessité d'inscrire quoi que ce soit, de faire de loi. C'est ça le principe du droit naturel. Eh bien, l'union des Français à l'époque se faisait naturellement. Parce qu'effectivement, même si on avait des patois, même si on avait, comment dirais-je, des coutumes, mais peut-être des traditions différentes entre la Savoie et puis la Bretagne, etc., machin, on était français. Mais on était français sans avoir besoin de l'écrire. C'est ça que je veux dire. À partir du moment où la Révolution française instaure le principe républicain, il faut une nouvelle création politique qu'on va appeler la nation et créer des mythes. Et c'est normal puisqu'on crée un nouveau monde. Et chaque création de monde implique forcément la création d'un mythe. Bon. Et ben on va utiliser par exemple des batailles type la bataille de Valmy en 1792, la grande bataille révolutionnaire où les révolutionnaires tous unis, la France révolutionnaire unie, la nation révolutionnaire va casser la gueule aux Autrichiens, etc. Bon, ce qui est pareil et ce qui est aussi un mythe parce qu'en fait, cette bataille, ce n'est ni plus ni moins que quelques coups de canon. Il n'y a même pas eu de rencontre entre les armées. Il y a eu de la pluie.
Les Gaulois. Donc, les Gaulois jusqu'au 19e.
Exactement. Ben, pourquoi la monarchie française n'a pas besoin de mythes du genre nos ancêtres, les Gaulois? On le sait, en fait. On le sait. On le sait. Et on n'a pas besoin de revenir dessus. Ça, c'est marrant, ça. Effectivement, quand on dit nos ancêtres les Gaulois, c'est un petit peu comme les valeurs de la République. Ben oui, mais si au nom de la République, on a colonisé des pays qui aujourd'hui nous reprochent d'avoir colonisé et on fait venir aujourd'hui des populations qui n'ont précisément rien à foutre là, et qu'on leur dit nos ancêtres les Gaulois, et on te regarde avec des gros yeux, mais d'où les ancêtres les Gaulois? Regarde ma tronche, je viens du Ghana, ou voilà, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et ben précisément, c'est là où le politique devient complètement fou, parce que ça n'a plus de sens. Nos ancêtres les Gaulois, bah très bien, oui. Si on est entre Berrichon et Poitevin, bon, ça passe. Si on est entre descendants d'Algériens et descendants du Togo, il y a un moment, on va te regarder, on va dire, non, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Et effectivement, c'est ça le problème. C'est que la République étant une création politique de toutes pièces, a besoin, puisqu'elle elle n'est pas, comment dirais-je, elle est hors sol, elle a besoin...
Elle n'a pas de légitimité.
Elle n'a pas de légitimité, exactement. Elle a besoin en permanence de relégitimer ses positions et de relégitimer son existence. D'où, les valeurs, les retours aux valeurs, les valeurs. Oui, bah, très bien. Mais comme elle est hors sol, donc elle a besoin de mythes, donc elle va avoir Valmy, elle aura Napoléon aussi, quelque part, même si c'est l'Empire, mais bon, il y aura aussi Napoléon. Et ensuite, bon, bah,
les alors, je vais te poser une question après sur Napoléon, mais d'abord, je voudrais débunker quelque chose, parce que il y a des commentaires à ce niveau-là, et ça, je veux le débunker, parce que c'est très énervant.
Ah oui.
Ils tapent sur les Républicains, mais peut-il évoquer pour nous l'épisode de la brioche? Et ah, donc oui. Ça, je veux le débunker, et je sais que tu vas le faire, à ma place.
Alors oui, l'épisode de la brioche, c'est un peu comme le 14 juillet pour moi. C'est que, c'est une phrase apocryphe, donc on n'est même pas sûr que Marie-Antoinette ait pu dire ça. Premièrement. Deuxièmement, l'idée de manger de la brioche, c'est-à-dire que on pouvait même acheter, n'importe qui pouvait acheter de la brioche chez le boulanger. Donc c'est pas, je vois pas en quoi. Et ça pour moi c'est l'histoire par le cinéma. Vous voyez ? Enfin, tu vois, c'est-à-dire que les gens, c'est comme les gens qui ont vu Germinal. Il y a un moment dans Germinal de Claude Berry, les pauvres. Miu Miu, elle arrive avec ses gamins, elle va chez les bourgeois et oh regarde, il y a une brioche sur la table, mes pauvres petits, on va leur donner trois chiffons et on va leur couper la brioche en deux parce qu'ils ont besoin de manger de la brioche. Mais c'est pas de l'histoire ça. C'est pas de l'histoire, ça. Ok, c'est du cinéma, ça fait des trucs qu'on retient, mais il n'y a pas d'histoire de brioche. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Qu'il y ait des gens qui, comment dirais-je, qu'il y ait une crise en 1787-88, oui, mais ce n'est pas des pauvres qui se font voler la brioche de la bouche de la part des nobles. Non, c'est qu'il y a eu une. C'est que dans les époques-là, il y a une succession de mauvaises récoltes qui fait que tout le monde crève de faim. Tout le monde crève de faim. Et le fait qu'il n'y ait plus de grains, donc plus de farine, donc plus de pain, concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Après, comme je le dis, on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des accaparements, etc. Mais une fois encore, si on parle de brioche, qu'on parle d'abord et avant tout du commerce du grain. Et si on parle du commerce du grain, là, on commence à faire de l'histoire, et là, on se rend compte que les accapareurs, ce n'est pas forcément les nobles, ce sont les marchands, ce sont les bourgeois, ce sont les gens qui sont autorisés par les intendants du roi, etc., qui sont changés d'ailleurs entre Maupeou, etc., Necker, etc., etc. Ça, c'est, tout ça, je le dis dans le livre. Ce sont les gens qui vont spéculer sur le grain. Ce sont les gens qui vont se faire des roustons en platine en spéculant sur le grain et en affamant les gens. Mais ça, ce n'est pas les nobles. Ce n'est pas le roi qui décide de spéculer sur le grain. Au contraire. Mais, et ça, dès lors on s'intéresse à ce genre de questions, tous les trucs un peu bidons sur les brioches, les machins, etc. C'est une révolte, non, sire, c'est une révolution, etc. Machin. Et toujours le même accent, c'est une révolte. Non, 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 arrêtez, arrêtez. Ça, c'est des images d'Épinal.
C'est si Versailles m'était compté de Sacha Guitry, quoi.
Oui, voilà, bon, voilà, pourquoi pas, c'est pas mal, pourquoi pas, ça mérite d'être vu, c'est sympathique. Regardez Germinal de Claude Berry, c'est un très bon film par ailleurs, c'est pas de problème. Mais c'est du cinéma, c'est juste du cinéma. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, d'ailleurs, ont une culture historique qui est passée par le cinéma. Bon, bah
Alors,
ouais, méfiez-vous, hein.
on va revenir à Napoléon.
Oui.
Qu'est-ce qu'était Napoléon exactement? Est-ce que c'était un républicain? Est-ce que c'était, je sais pas moi, une sorte de dictateur? Est-ce qu'il était un monarchiste d'un nouveau type, voilà, qui succédait au Bourbon? Qu'est-ce qu'il était exactement?
Alors Napoléon, déjà je pense que le meilleur mot pour Napoléon, enfin il y a deux mots pour Napoléon. Moi je pense que c'est, et comme ça, on va dire que c'est un peu facile, je vais me mettre tout le monde dans la poche. Il y a génie politique. Napoléon est un génie politique, génie même militaire, etc. Mais je pense, avant même d'être un génie militaire, c'est un génie politique. Et c'est aussi un génie de l'opportunisme. C'est quelqu'un qui est au bon endroit, au bon moment. Et qui a cette faculté de prendre des bonnes décisions et d'être entouré par des gens tout aussi talentueux que lui. Après Napoléon, bon, il a réalisé effectivement de. Napoléon, en fait, et ça, bah, je reviens à ce que disait René Sédillot. Napoléon va. Il va récupérer les fruits du verger de la monarchie. Mais ce n'est pas lui qui a planté les vergers. Enfin, qui a planté le verger. Et Napoléon va bénéficier de plusieurs choses. Un, la France, bah tiens, parce qu'on parlait de brioche là. Donc les gens majoritairement pensent que tout le monde crevait de faim. Mais si tout le monde crevait de faim avant la Révolution française, comment se fait-il que la France était le pays le plus peuplé d'Europe? On était la Chine de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. On était le pays le plus peuplé d'Europe. Et donc Napoléon va bénéficier de plusieurs choses. Donc, il bénéficie donc d'un changement politique. Il bénéficie d'une population énorme, ce qui est très pratique parce que quand on fait la guerre, on a besoin d'hommes. Il bénéficie de comment dirais-je, d'une nouvelle doxa et comme je l'ai dit, la primeur de la nouveauté républicaine fait que il y a quelque chose, on croit. Ouais, il y a une croyance, une nouvelle croyance. La nouvelle croyance, c'est on va aller porter la République ailleurs. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Quand on a une armée de 200 hommes face à 1000 hommes, mais si les 200 hommes croient à ce qu'ils font et sont décidés à mourir pour une cause, si les hommes en face sont pas dans leur assiette et n'ont pas envie de se battre, à mon avis, ça va jouer énormément. Donc, il y a différents éléments, les deux là, et il y en aurait des tas d'autres. Mais Napoléon, effectivement, est un grand opportuniste, très intelligent, particulièrement adroit, particulièrement fin. mais qui va un peu va être dans le simulacre, c'est-à-dire qu'il va être un espèce de nouveau roi. D'ailleurs, pour essayer de ne pas faire redite, on va appeler ça un empereur, et avec à la fois une passion dévorante autant pour l'Empire romain que pour aussi avec une énorme fascination pour l'Orient. Hein. Faut jamais oublier quand Napoléon part en Égypte, c'est parce qu'il a une fascination pour l'Orient, et l'un de ses grands modèles, c'est Alexandre. Et ce qu'il
Alors,
va faire, en fait,
est-ce
c'est
qu'il s'est
fondamental.
converti à l'islam, Napoléon? On ne sait pas. Est-ce qu'on sait ou pas?
Alors là, ça, par contre, je ne pourrais pas dire. Je ne sais pas. Je ne
Bon,
sais pas.
certains disent oui, d'autres disent non. Enfin, je sais
Peut-être, ça, je
pas.
ne sais pas. Ça, je ne pourrais pas dire. Je sais
Alors, on
que.
va parler un peu
Oui.
parlementarisme.
Vas-y. Parlementarisme, ah, oui, très
Voilà,
intéressant.
je vais lire un extrait parce que le parlementarisme, bah, c'est la République, il faut dire les choses. Et le parlementarisme, faut se le dire, c'est un régime à combattre. Hein. Voilà, ce sont mes mots. Alors, le contre-pouvoir parlementaire. À la veille de la Révolution française, le pouvoir absolu, concomitant au développement de l'État-nation français, a fait du règne de Louis XIV un véritable marchepied pour la suprématie française en Europe. Le pouvoir doit cependant frayer avec la montée de plus en plus importante des parlements. Aux prises avec la figure du roi, monarque absolu depuis le XVIIe, les parlements vont progressivement remettre en question l'autorité de ce dernier. Cour souveraine en charge de rendre justice au nom du roi au sein d'une province sous l'Ancien Régime, les parlements voient le jour au XIIIe avec le Parlement de Paris. Bientôt, d'autres parlements seront établis dans les provinces à partir du XVe siècle. La montée en puissance du pouvoir du roi et de sa cour, la Curia Régis, implique une division tripartite du traitement des affaires du royaume. Le Conseil du roi pour les affaires politiques, la Chambre des comptes pour les questions financières, et le Parlement qui vient assurer la justice dans le royaume. Est-ce que le parlementarisme est aussi une des raisons de la chute de la monarchie?
Ah oui, ah oui, ah, c'est une évidence. Comme je l'ai dit, la révolution est aussi une révolution du droit. Et ça, c'est très important. Ce qu'on appelait la noblesse à l'époque, tiens, on parlait du sentiment national. En 1215, il y a la bataille de Bouvines. C'est là qu'on établit, grosso modo, le premier moment où les Français sont sentis français contre un seul et même envahisseur, savoir les Anglois. Bon, à l'époque, 1215, la noblesse, c'est la noblesse. Autrement dit, c'est la noblesse d'épée. C'est les nobles qui risquent leur peau pour protéger les paysans. C'est leur rôle. Au XVIIIe siècle, la noblesse recoupe plusieurs choses. Il y a la noblesse d'épée qui, elle, est en train de mourir. Il ne faut jamais oublier que, à la veille de la Révolution française, les familles nobles par lignée, on va dire, qui sont établis sur plusieurs siècles, sont en train de mourir. Il y a de moins en moins de nobles. Ils sont en train de mourir pour des tas de raisons. Le peuple crevait de faim, mais les nobles crevaient de faim, d'ailleurs, entre guillemets. Mais si le peuple souffrait, la noblesse souffrait aussi dans le sens où les nobles ne pouvaient plus payer pour leur château, etc., etc. C'est-à-dire que la noblesse, donc l'un des trois éléments, si on prend la logique du Dumézil, le monde tripartite, hein, la noblesse était en train de crever. Et il y a une nouvelle noblesse qui arrive, qui progressivement prend son essor. C'est la noblesse de robe. Et la noblesse de robe, c'est qui? Ben, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. C'est les avocats, c'est les parlementaires, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui les professions libérales. C'est les bourgeois. Et dès lors où cette nouvelle noblesse prend du pouvoir, elle s'immisce progressivement dans les instances du pouvoir. Et les instances du pouvoir, d'un point de vue local, c'est les parlements. Et d'ailleurs, les parlements vont jouer un rôle très important, éminemment important dans la Révolution française. Et les rois de France, à partir de Louis XIV, même déjà avant, mais surtout à partir de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, vont s'inscrire en but en permanence avec le roi. Il va y avoir des conflits permanents avec le roi, en l'empêchant de prendre des décisions, etc., etc., machin. Bon, il faudra aller jusqu'à des lits de justice, qui étaient en fait une procédure qui consistait pour le roi à dire, maintenant c'est terminé, vous la fermez, il est enfin temps de prendre des décisions. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, tu disais, nous sommes dans un monde parlementariste. Ah oui, et pas qu'un peu. Il suffit de voir à quel point, quand on a des débats à l'Assemblée nationale, alors là, puis ça devient vraiment, c'est grand-guignolesque aujourd'hui. Je veux dire, on a des gens, tout, ils font, c'est à se pisser dessus, tellement c'est drôle. Les polémiques à la con sur les bateaux, machin, qui retourne en Afrique, bidule, celui qui a pas mis une cravate, machine, machin, parce qu'il a été, machiste ou je sais pas quoi. On n'en sort plus. On n'en sort plus. Et pourquoi c'est très pratique? C'est très pratique parce qu'en fait, le parlementarisme, c'est l'inverse du politique. Le politique, c'est ce que dit par exemple un très grand penseur et un juriste également qui s'appelle Carl Schmitt. Carl Schmitt dit le politique, c'est la décision, c'est trancher. Et le roi, il est à la fois arbitre, mais c'est celui qui tranche. C'est celui qui dit maintenant, on fait ça, on ne fait pas ça. On prend telle décision, on va dans cette direction, on ne va pas dans cette direction-là. Le parlementarisme instaure l'inverse. Il instaure l'indécision. Et c'est ça qui est magique dans le parlementarisme. C'est que ce n'est pas du politique. C'est l'inverse du politique. Il n'y a aucune forme de décision dans une discussion perpétuelle. Et le parlementarisme, c'est de la discussion perpétuelle. C'est tel amendement, tel machin, gna gna gna, on va tripoter, gna gna gna, machin, on va passer par là. Ah, mais non, en fait, on va revenir en arrière, etc., etc. Et pendant ce temps-là, les décisions se prennent. Les décisions se prennent, oui, bien sûr. Mais pas au Parlement, ailleurs. Hein, je ne vais pas te faire un dessin. Je pense que les auditeurs auront compris. Voilà. Les instances supranationales, etc., etc. Et l'Union européenne te fait suer parce que telle tasse doit avoir désormais tel diamètre, etc. Et maintenant, le français devra se chauffer à tel niveau de degré et pas plus parce que sinon, ça ne va pas, etc. Mais par contre, les représentants du peuple, la représentation nationale, etc., les républicains, tout ça, eux, ils servent à quoi? Ben, à rien. Eux, ils discutent. Eux, ils discutent en permanence. Et le parlementarisme, c'est ça.
Ben justement, tu parles de la prise de pouvoir par les professions libérales, par la bourgeoisie libérale, qui aujourd'hui se fait damer le pion par les financiers, par les spéculateurs. Mmh. Et les professions libérales, oui, elles vont morfler. Je peux te le dire.
Ah, ben, le problème, il est là. C'est-à-dire, on le voit. Pour bien connaître pas mal de gens qui font des professions libérales, ils ont, pour beaucoup, c'est pas au doigt mouillé, mais bon, voilà, je n'ai pas besoin de mentir vis-à-vis de ça, de toute façon, mais beaucoup de gens, mettons, je sais pas, des gens qui font des professions libérales, se pensaient très protégés par l'État. Et c'est vrai, beaucoup de gens qui exercent des professions libérales ont encore une logique très corporative, hérité des corporations de l'Ancien Régime. Et donc, ils sont protégés, objectivement, c'est vrai. Mais ils le seront de moins en moins. Ils le seront de moins en moins parce qu'ils sont vétustes. Ils sont vétustes aujourd'hui. Leur façon de travailler, leur façon de faire et la protection dont ils bénéficient n'a plus rien à voir avec les nécessités du marché. Le marché doit être ouvert. Le marché doit être libéralisé au maximum. Donc, je prends un autre exemple. Avant, on protégeait les taxis. Pour être taxi, il fallait acheter une licence. Aujourd'hui, n'importe qui peut être taxi grâce à Uber. Et peut-être que demain, n'importe qui, après, je ne sais pas moi, un an, deux ans d'études notariales, par exemple, pourra être notaire. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, si ça fait mieux fonctionner la machine, ben c'est tout. Et c'est là où il faut jamais, c'est ça aussi qu'il ne faut jamais oublier par rapport à notre sujet. La Révolution française est éminemment libérale. Ce qu'on veut libéraliser d'abord avant tout, et ce qu'on veut libérer, ce n'est pas le peuple, on s'en fout du peuple. Ce qu'on veut libérer.
Est-ce que la Révolution française, comme tu as parlé de libéralisme, c'est aussi l'avènement de la République américaine et pourquoi pas aussi des penseurs libéraux type Tocqueville ou Bastiat?
Alors, moi par exemple, c'est un truc qu'on m'a pas reproché, mais on pouvait être surpris. Moi j'ai inscrit Tocqueville. Je le cite beaucoup dans mon bouquin, et j'inscris Tocqueville en tant que penseur contre-révolutionnaire. Ce qui, effectivement, on pourrait y apporter des nuances, c'est vrai, mais je pense que la vision de Tocqueville est très contre-révolutionnaire parce qu'il est très lucide. Et justement, en comprenant, en étudiant et en observant l'instauration de ce qu'on appelle la République américaine, encore une énième république, il voit que, déjà les limites de la chose. Et il sait la différence entre le continent américain et la France. Eh oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même histoire. Et malheureusement, aujourd'hui, on l'oublie parce que nous sommes américanisés jusqu'à la trogne, mais bon, c'est un fait. Et donc, le libéralisme républicain est quelque chose de capital à comprendre, puisque, comme je l'ai dit, ça libère le commerce, ça libère, ça permet les libertés, mais ça permet surtout de libérer les forces de l'argent. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Quand, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment insister plutôt que des histoires de brioche, là. Quand la Révolution française supprime les corporations, elle supprime quoi ? Elle supprime de la liberté pour des corporations, autrement dit, pour des secteurs d'activité. Bon, je ne sais pas, à l'époque, on va dire, le paysan, le rimouleur, le forgeron, etc., etc., le canotier, bon, bref. En faisant ça, en supprimant ces protections corporatives, elle permet la liberté à l'argent de circuler. Mais elle permet surtout, surtout, aux gens, enfin, aux bourgeois, à la nouvelle bourgeoisie triomphante, de pouvoir faire de l'argent en toute liberté. Et c'est ça qu'il faut retenir. Sous l'Ancien Régime, il y a des corporations, et ces corporations-là peuvent se défendre. Elles défendent leur liberté. Elles se mettent en grève. Elles se mettent en grève. Quand les marchands de Paris se mettent en grève, bah, il n'y a plus de nourriture à Paris. Et donc, le roi dit, bon, alors, okay, alors c'est quoi le problème ? Quelles sont vos revendications ? Qu'est-ce que vous voulez, etc. Moi, je suis là pour trancher. Je suis là pour trancher. On passera par le marchand, on passera par le patron des marchands, etc. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Et un autre auteur que je cite dans mon bouquin, que j'adore, que j'ai découvert d'ailleurs pour...
Donoso Cortés, j'imagine.
Donoso Cortés, merci, exactement. Donoso Cortés va parfaitement bien analyser deux choses, à savoir les contradictions du libéralisme et les contradictions du socialisme, qui est une réponse, en fait, ni plus ni moins, hein, c'est une réponse au libéralisme bourgeois. Bon. Mais c'est du socialisme, en fait, c'est du christianisme sans Dieu. Hein, c'est, voilà. Mais le résultat fait qu'il montre très bien ça. La monarchie a pu scier les branches sur lesquelles elle pouvait être assise, mais le problème, c'est que le libéralisme va aller beaucoup plus vite. Va aller beaucoup plus vite pour scier la branche sur laquelle lui aussi est assis, si je puis dire. Et je ne sais pas, moi je ne lis pas dans le marc de café et je ne suis pas devin, hein, mais je ne sais pas combien de temps la République pourra encore tenir sur ses fonds baptismaux, mais il est clair qu'à partir du moment, puisqu'on parlait par exemple tout à l'heure de colonisation, à partir du moment où on utilise ses propres valeurs pour lui renvoyer dans la tronche en permanence ça, et en permanence en laissant faire les forces de l'argent, etc., à la fois, je ne sais pas, depuis le haut, permettre à des instances internationales de dépecer industriellement la France, et depuis le bas, faire venir des gens qui n'ont rien à faire ici et qui vont s'en prendre aux autochtones, il y a un moment, va y avoir une dissonance cognitive. C'est plus possible. C'est plus possible.
Alors, la révolution, c'est la disparition de Dieu. Et donc, je vais lire un petit passage. L'école socialiste fait advenir l'idéal révolutionnaire d'une religion sans Dieu. Dans le mouvement de balancier de l'histoire, une doctrine ou théorie politique implique bien souvent la naissance d'une doctrine opposée. Et c'est en tant que tel que le courant socialiste se forme progressivement durant le 19e siècle, doctrine qui naît en même temps que se forme le mouvement dit industriel, raison pour laquelle elle est souvent présentée comme plus attachée aux questions sociales. Une société sans Dieu, ça n'a jamais existé en réalité dans l'histoire de l'humanité.
Toute civilisation est fondée sur du sacré. Donc il n'y a pas de civilisation sans Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les athées pourront sortir ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs... c'est ça qui est très drôle. L'athéisme est aussi une forme de croyance, puisque ne pas croire en quelque chose, c'est déjà une forme de croyance. Donc, voilà. Mais toute civilisation est fondée sur un phénomène de sacré, donc du religieux. Que ce soit polythéisme, monothéisme, que sais-je. Mais toute société, toute civilisation est fondée sur du sacré, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, et pour durer, toute civilisation a besoin en permanence de puiser dans ce sentiment de croyance et dans ses religions, dans sa religion. Donc, là, tu parlais du socialisme. Le socialisme, effectivement, qui est une réponse au libéralisme, c'est une volonté de vouloir redonner un supplément d'âme à un monde devenu éminemment matériel et marchand qu'est le monde libéral, et qui s'accommode très bien de l'athéisme, par exemple, puisqu'on n'a pas besoin de croyance. dans le monde marchand. On a besoin de croire qu'en une seule chose, l'argent, les forces de l'argent. Le socialisme va réinstaurer quelque chose. La croyance en l'homme. Croyance au fait que l'homme avant l'argent. On pourrait résumer aujourd'hui avec un truc plus actuel, l'humain avant le profit, quoi. Voilà. Bon, c'est bien beau. Mais c'est bel et beau, comme dirait l'autre, mais ça existe déjà, ça. Ça s'appelle le christianisme. Ça s'appelle le message du Christ. Ça s'appelle le message du Christ. Bon. Le problème, et là, il y a un contraste flagrant, c'est que on peut pas utiliser le message du Christ en nous expliquant que ce nouveau projet politique ne va pas s'embarrasser du Christ. Puisque finalement, en fait, bah, c'est bien. Donc, tout ça n'est que matériel. Tout ça n'est que matériel. Si, écoutez par exemple un syndicaliste aujourd'hui ou un représentant de la gauche, je ne sais quoi, qui vous explique que à partir du moment où vous donnera plus de pognon, vous serez plus heureux. Alors, l'argent, je ne sais pas, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue, c'est vrai. Mais est-ce que le fait, la revalorisation de salaire ou le fait d'avoir 2-3 croquettes en plus va vous rendre heureux? C'est plus que discutable. Un, c'est plus que discutable. Deux, en termes de projet politique, c'est assez court. Et trois, ce n'est à la fin des fins qu'un affrontement de coquelets dans une petite mare qu'on appelle en fait la démocratie de marché d'opinion aujourd'hui, qui consiste à dire blanc contre, enfin, rouge contre bleu, bleu contre rouge, droite contre gauche, gauche contre droite. Il faut privatiser pour faire plus d'argent. Non, il ne faut pas privatiser. Il faut rendre les choses publiques pour redistribuer l'argent. Mais à la fin des fins, le sujet est toujours le même. L'argent. L'argent. Point. Et le problème, il est que le socialisme, c'est ça. C'est ni plus ni moins qu'une symétrie du libéralisme. Et c'est pour ça que les auteurs contre-révolutionnaires là-dessus sont très, très forts, parce qu'ils voient déjà, en fait, le barbotage et les sempiternels discours et autres blablateries parlementaires entre l'équipe A et l'équipe B. Mais, OK, très bien. Et puis quoi ? Et puis rien. Et puis ça fait 200 ans de toute façon qu'on nous sert à peu près toujours la même chose. Bon, bah,
alors,
très bien.
Comment imposer la contre-révolution ? Bon, sachant que il y a eu quelques tentatives, il y a eu le boulangisme, il y a eu 1934.
Ah, je ne te vois plus.
Reviens. Comment gagner par la contre-révolution ?
Alors, j'ai pas tout entendu.
Au final, ouais, parce que le but, c'est quand même d'imposer la contre-révolution, j'imagine.
À un moment, ça a dû couper, donc je n'ai pas tout entendu. Mais bon, la question, alors, c'est comment imposer la contre-révolution.
Voilà, sachant qu'on a eu quelques tentatives avec le boulangisme, 1934, voilà. Bon, qui ont été des échecs. Voilà, comment réussir à l'imposer in fine.
Alors, imposer, je ne sais pas, moi je ne suis pas un homme politique ou un doctrinaire politique donc, ou un mousquetaire en mission, voilà. Mais je ne pense pas que comment dirais-je, je ne pense pas que quelque chose de, enfin, un événement politique puisse d'une quelconque façon réinstaurer ce qui a été perdu. Et là-dessus, même si Marx peut dire des tas de conneries, peut aussi dire des choses très justes, l'histoire ne repasse pas les plats, et c'est vrai. C'est-à-dire, la monarchie capétienne est morte, elle est morte. Bon. Ce qui ne veut pas dire que demain, une nouvelle forme de monarchie française, s'inspirant de ce qui s'est passé, mais n'étant pas la même, puisse réadvenir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas non plus. Moi, je ne pense pas qu'il faille il n'y a pas besoin d'un deuxième février 34. Et puis, en février 34, il y a aussi tout et n'importe quoi. Donc bon. Mais moi, je vais juste essayer d'être logique et un petit peu conséquentialiste. Comme on l'a dit là depuis un certain moment, là, depuis une heure et demie, si la République, effectivement, ne peut plus tenir, elle sera remplacée par autre chose. Bon, bah, c'est le cycle, pas le cycle de la vie, mais c'est un peu c'est le phénomène cyclique de la politique et le phénomène cyclique des civilisations. Bon, ça se renouvelle, ça disparaît, il y aura quelque chose de nouveau, etc. Bon. Est-ce que il faudra revenir au principe instauré par l'ancien, enfin, les principes qui avaient cours sous l'ancien régime? Je pense que oui. Et d'ailleurs, on parlait de De Gaulle. Avec De Gaulle, on en est quasiment là. Hein. On en est quasiment là. Même si, et d'ailleurs, il y avait eu des fameuses discussions, De Gaulle, etc., qui s'étaient interrogés en faisant appel au comte de Paris. Est-ce qu'on réinstaure la monarchie? Hein, c'était dans les tuyaux. Je veux dire, c'est bon. Donc, ça me paraîtrait pas saugrenu comme projet politique. Après, comment y arriver? Honnêtement, ça, je ne pourrais pas
Mais
dire. Je ne
est-ce
sais
que,
pas.
alors, tiens, ce qui est intéressant, c'est, est-ce que, parce que tu as parlé des Capétiens, donc voilà, la période des Capétiens, c'est fini. Est-ce que la période des Bourbons, elle aussi, c'est terminée? Parce qu'on a un Louis XX, là, qui est genre l'Espagne. Est-ce que, en réalité, c'est une chimère?
Très honnêtement, je ne pense pas que Louis XX soit un jour roi de France. Oui, là, je pense que c'est une chimère. Pour être franc, je crois que c'est durant les temps difficiles que des hommes exceptionnels vont émerger. C'est toujours comme ça. Vu comment c'est achalandé, vu comment on est parti, voilà, j'ai dit, je ne lis pas dans le marc de café, il est fort probable qu'on soit sur le point de traverser des temps très difficiles. Si de ces temps difficiles sortent des hommes, je ne sais pas moi, mais sortent des hommes exceptionnels, qui, après une bérésina politique, après un effondrement politique, etc., instaure quelque chose de nouveau. Oui, bah à ce moment-là, je pense d'ailleurs qu'ils auront cette culture-là, ils auront cette culture-là en tête. Je pense qu'ils reviendront à ces principes-là. Il y aura quelque chose de nouveau. Mais Louis XX ou le comte de Paris, même si d'ailleurs ce sont des gens et c'est ça aussi quand même la beauté de la monarchie, ce sont des gens qui savent d'où ils viennent, donc ils sont comment dirais-je? Pas ils sont propres sur eux, mais ils incarnent encore quelque chose. Ça se voit dans leur posture, dans leur tenue, dans leur façon d'aborder le sujet politique, dans leur façon d'être. Ils incarnent encore quelque chose. Et ce qui prouve bien que la monarchie, avant d'être des principes, c'est une incarnation. Le roi de France incarnait quelque chose. Il était à la fois le père de la nation, le tenant du Dieu sur terre, et il incarnait quelque chose. Et c'est ça qui manque. Il n'y a plus d'incarnation en quoi que ce soit aujourd'hui. On l'a dit, et les politiques font le job. Ils font le job
Sûr.
pour 5 ans, et après, retraite, et basta.
Mais
Voilà.
est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, ce sera les circonstances qui vont créer les hommes et ce ne sera pas les hommes qui vont créer la circonstance?
Je pense que... Et d'ailleurs, est-ce que les hommes ont été en quelconque mesure, à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, ont été en quelconque mesure de créer des circonstances? Est-ce que ce n'est pas l'inverse? Alors ça, c'est une grande question. Hein, je ne vais pas me permettre de répondre, mais je ne sais pas du tout. En revanche, je te dis, je reviens sur ce que j'ai dit. Je ne pense pas que, avec les temps que nous allons connaître, je ne pense pas que l'homme... En tout cas, que les hommes politiques, voilà, pour faire encore plus simple, que les hommes politiques français seront en mesure de tenir et de créer quoi que ce soit. Non, ils feront avec. Et d'ailleurs, ça fait une belle durée qu'ils font avec, justement, parce que précisément, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus de politique. Voilà. À la différence, puisque je disais que les hommes subissent, à la différence quand même avec l'Ancien Régime, c'est qu'il y avait du politique et, comme je l'ai dit, on prenait des décisions. On prenait des décisions. Comme de toute façon, on ne prend plus aucune décision politique dans ce pays, telles qu'elles sont prises ailleurs. Ce n'est pas les députés qui feront quoi que ce soit. Voilà, on aura peut-être un ou deux députés. Mettons, tiens, allez, scénario. Allez, scénario. Demain, au printemps, là, printemps, les beaux jours reviennent. On a des gilets jaunes fois 10. Fois 10. Énorme. Parce qu'il n'y a plus d'essence. Parce qu'il n'y a plus d'électricité. Parce que les gamins vont à l'école un jour sur deux. Parce qu'on ne peut plus chauffer l'école. On aura forcément des députés, d'ailleurs on en a eu, très peu, on en a eu, on aura des députés qui vont remettre le gilet jaune et qui seront sur les barricades, comme en 1848, on a eu des députés, etc. Mais, très bien, mais une fois encore, la machine en tant que telle sera dépassée. Donc, qu'est-ce qui adviendra? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut revenir à ces principes, enfin à tous les principes que j'évoque dans mon bouquin? Je pense oui, autrement, bah oui, la France n'est plus la France, pour évoquer un autre bouquin que j'avais écrit avec Stella Kamga. Et donc, ben, le résultat fait que oui, au bout d'un moment, je pense que pour les auditeurs, qui voilà, il y a eu beaucoup d'informations, a donné beaucoup de noms, etc. Je pense que n'importe quel auditeur, au moins, pourra faire preuve de bon sens élémentaire. Si, s'ils habitent en ville, etc., allez faire un tour à la campagne et vous verrez qu'en fait, dans chaque village de France et de Navarre, il y a une église. Et en fait, la France, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un petit temple là, avec une flèche qui impose une verticalité et qui fait que qu'on soit croyant ou pas, quand on entre là-dedans, parce que la croyance, c'est autre chose. Voilà. On a la foi, on l'a pas, c'est comme ça. Mais quand on entre là-dedans, on sait qu'il y a quelque chose de spécial. On sait que c'est pas anodin. On sait que c'est pas n'importe quoi. Et la France, c'est ça. C'est pas anodin, c'est pas n'importe quoi. Et il y a ce phénomène-là, il y a cette chose-là en France. Et ça, c'est la France.
Alors, je vais lire. Je vais lire la conclusion de Donoso Cortés. Mmh. Le désordre causé par la prévarication de l'homme fut semblable au désordre causé par la révolte de l'ange. Car il est impossible d'être rebelle et prévaricateur de deux manières essentiellement différentes. L'homme ayant cessé de graviter vers Dieu par son intelligence, par sa volonté, par ses œuvres, se constitua son propre centre afin d'être lui-même sa fin dernière, la fin dernière de son intelligence, de sa volonté, de ses œuvres. Le monde n'a jamais vu, il ne verra jamais l'homme qui est sorti de l'ordre par la porte du péché, y rentrer par une autre porte que celle de la peine. La peine, cette messagère de Dieu, envoyée à tous les hommes et qui arrive à tous avec ses messages. Un commentaire.
Là, effectivement, c'est très mystique, mais bon, Donoso Cortés était un mystique. Quand on est, là, on va prendre un petit peu de hauteur, c'est sûr, mais quand on est croyant, forcément, on a une vision un peu plus large des choses, si je puis dire. Parce que forcément, on sait que nous ne sommes que de passage dans ce bas monde et que tout ça n'est qu'une étape, hein, faire autre chose. Bon. Mais il n'empêche que, puisqu'on disait que chaque civilisation est fondée sur un phénomène religieux, un sentiment religieux, sans sentiment religieux, il n'y a pas de civilisation. Donc, la France pourra, enfin, ce qui est devenu la France aujourd'hui, pourra cracher sempiternellement sur son ancien, sur son héritage. Elle ne fait que cracher sur elle-même. Nous vivons, en fait, vraiment aujourd'hui dans un moment, dans un monde schizophrénique. Hein. Vraiment schizophrénique. Parce que les Français le sentent, ça. Quand on, au moment des Gilets jaunes, je me souviens vraiment, au moment des Gilets jaunes, des gens qui pouvaient me dire des choses éminemment religieuses sans être croyants. Mais ils ne s'en doutaient pas. Ils ne s'en doutaient pas. Et quand on leur disait, mais attends, ce que tu dis là, c'est parole d'évangile en fait. Et là, tout d'un coup, ils s'arrêtaient, ils disaient, ah ouais, ouais, peut-être, ouais. Mais je ne connais pas bien tout ça, tu vois, je ne connais pas. Bah oui, on ne connaît pas, c'est sûr. On ne va plus au catéchisme, on ne va plus à la messe, on ne va plus. Voilà. Oui, c'est sûr, on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais c'est là. Et c'est ça la beauté de la chose. On ne connaît pas, mais c'est là. Et je ne dis pas que le salut politique passera de toute façon par l'Église, mais il passera aussi par là. C'est une évidence. Il passera aussi par là. En revanche, si les gens s'intéressent à tous ces auteurs, ils s'intéressent aux bouquins, etc., effectivement, ils verront que le fait d'avoir brisé la boussole et le fait de considérer l'homme comme son centre propre, comme son centre, et que cette seule perspective à la fois politique et religieuse est une perspective indépassable, je pense que très vite les gens vont se rendre compte que effectivement c'est une voie sans issue. C'est la voie du progrès. Mais la voie du progrès, c'est l'homme qui marche. Alors il marche, mais il ne sait pas où il va. Les macronistes sont un exemple. Les macronistes là-dessus sont absolument caricaturaux, mais c'est fabuleux les observer. Les macronistes le disent bien, ils sont en marche. Vers où? On ne sait pas, mais ils sont en marche, ils sont en mouvement. Ouais. Mouvement perpétuel, le mouvement du progrès. Vers quoi? On ne sait pas. Même eux ne savent pas d'ailleurs. On leur pose la question, ils ne savent pas. Mais ce n'est pas grave, ils sont en marche, ils avancent. Voilà. Bon. Voilà. Je pose la question de savoir, est-ce que justement, ils avancent vers le salut de la France? Bah, écoutez, voilà. Les auditeurs ont qu'à revoir ce qui s'est passé durant ces 5-6 dernières années, puis ils se feront une idée.
Ils jugeront. En tout cas, merci beaucoup. Excellentissime livre. Voilà, je le montre encore. Hein, La révolution contre. contre la France aux éditions du Verbe Haut. Voilà, je vous le conseille à tous. Excellentissime livre. Merci alors beaucoup.
Je précise une chose, oui. Mike. Étant donné que mon éditeur et moi, nous étions assez d'accord là-dessus, on ne veut pas participer à Amazon. Donc, si les gens sont intéressés par le livre, parce que bah oui, il faut bien aussi gagner son sel, ils peuvent le trouver donc sur le site éditionduverbeo.com et ils pourront aussi le trouver sur Amazon, mais sur Amazon, il n'est pas vendu par Amazon. Voilà, on ne voulait pas que ce soit vendu par Amazon. Donc, je pense que c'est référencé sur Amazon. Après, je ne sais pas comment tout fonctionne, mais voilà, adressez-vous plutôt, allez voir des vrais gens, adressez-vous plutôt à votre libraire, à des gens en vrai, etc. Et vous, voilà, vous passez commande, mais tant que possible, évitez Amazon, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, cher François-Xavier.
Merci, Mike.
C'était vraiment un plaisir. On a passé 1h40 ensemble. Formidable.
Partagé.
Voilà. Merci beaucoup. Allez, passez tous une bonne journée. Et à mardi, il y aura Marie-Estelle Dupont pour son dernier livre, L'Anti-Mère. Merci beaucoup, cher François-Xavier. Allez, salut, ciao.